Radio Okapi. Le journal Noëlla Luzitou Kamambi.
Trois attaques contre des convois de l'armée ougandaise et de l'armée congolaise au Nord Kivu. Deux personnes ont été tuées lundi et mardi. Les auteurs de ces attaques seraient des jeunes gens armés non autrement identifiés. Les marchandises sont enlevées des camions de gros tonnage avant leur passage sur le pont Luilu. Dans le territoire du même nom, dans la province de la Lomami, les transporteurs récupèrent leurs biens une fois le pont traversé. Cette décision du gouverneur de province, c'est pour éviter l'effondrement du pont en mauvais état. Eric Erimirindi, conseiller municipal de la commune des Kalemie, est l'invité de ce journal. Il revient sur les mauvaises conditions de travail des membres du conseil municipal, faute des moyens matériels et financiers. Bonsoir à tous. Au Nord Kivu, deux personnes ont été tuées dans trois attaques lundi et mardi contre des convois de l'armée ougandaise et de l'armée congolaise, ainsi qu'une position des FRDC à la sortie sud de la ville de Butembo. Les auteurs de ces attaques seraient des jeunes gens armés non autrement identifiés. Sadiq Aboubakar.
La première attaque d'un convoi de l'armée ougandaise, le UPDF, est intervenue lundi au début de la soirée à Matembe, un quartier de la commune de Vulamba dans la ville de Butembo. Selon des sources locales, des militaires de l'armée ougandaise en déploiement dans la zone pour appuyer les FARDC à Mangurejipa dans le territoire de Lubero ont été ciblés par ces groupes de jeunes armés. Ces derniers voulaient empêcher le mouvement des troupes de UPDF sans succès. Mardi cette fois, à la tombée de la nuit, un autre convoi des FRDC et des UPDF en mouvement dans la zone a encore été attaqué par des jeunes armés, toujours dans la commune de Vulamba. Lors de l'échange des tirs qui s'en est suivi, l'un des assaillants a été tué. Enfin, toujours dans la nuit de mardi, une position des FRDC a été attaquée à Kunguta, dans la commune de Bulengera. Ici, un deuxième assaillant a été tué et son arme récupérée par l'armée. Cette situation a créé une grosse panique au sein de la population locale. Ce mercredi, le calme était revenu dans la ville de Butembo, confirme des sources militaires. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, vive tension cet avant-midi au quartier Majengo, dans le nord de Goma, et dans le village Turunga, au sud du territoire voisin de Nyiragongo. La route urbaine reliant les deux entités a été barricadée pendant un long moment par des jeunes en colère. Ces derniers contestaient le meurtre d'au moins deux membres d'une même famille par des bandits armés dans le village Turunga, Bernard Denyangi.
C'est seulement autour des 11 heures locales que la police déployée sur place a réussi à dégager le tronçon routier Majengo Kilijiwe qui était barricadé depuis 8 heures par la jeunesse en colère de cette partie située sous les limites entre la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo. Les habitants de la zone contestaient un énième cas de meurtre qui a ôté la vie à M. Mamba Kambale et à son épouse, habitant du village Turunga. Ce couple a été attaqué dans la nuit autour de minuit par un groupe d'hommes armés inconnus. Certaines sources locales affirmaient que ce serait un cambriolage qui aurait mal tourné. Alors que les jeunes voisins tentaient d'intervenir, les bandits ont ouvert le feu, tuant les deux parents et blessant grièvement deux autres personnes dans la maison, un garçon et une fille qui ont été conduits à l'hôpital. Les manifestants exigent le renforcement des mesures de sécurité et le contrôle des armes en circulation illicite qui font des victimes presque chaque semaine dans cette partie nord de la ville de Goma, en l'occurrence en commune de Karisimbi à Goma et village du sud du territoire de Nyiragongo. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Et puis dans la même région, fin hier mardi de la mission du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières à Goma. Devant la presse, le ministre a bouclé sa visite de travail en affirmant que sa mission au Nord Kivu entrait dans le cadre d'une mission à caractère sécuritaire. C'était aussi une mission de réconfort des populations affectées par la guerre et enfin une mission d'information. Écoutons Jacquemin Chabani dans ses propos recueillis par Gabriel Wamenia.
Bon, c'était une mission à caractère sécuritaire pour nous enquérir de la situation, mais c'était aussi une mission de réconfort. Donc c'est dans ce sens aussi qu'au-delà des réunions de conseil de sécurité que nous avons tenues à Butembo et ici à Goma, nous avons rencontré les forces vives de ces deux villes pour échanger avec eux, pour prendre la température, avoir toutes les informations possibles. Les réconforter aussi parce que le gouvernement est conscient qu'ils vivent dans une situation sécuritaire complexe. Et il était important que le gouvernement soit présent parmi ces populations-là en difficulté. Mais la population doit retenir qu'elle n'est pas abandonnée, elle n'est pas seule. Le gouvernement de la République est avec elle, à ce dossier-là sur sa table. Tout le monde est sans ignorer que depuis quelques jours, le président de la République a convoqué le Conseil national de défense, qui va nécessairement déboucher sur des décisions importantes sur la réorganisation du volet sécuritaire.
Peu avant son départ pour Kinshasa, Jacquemain Chabani, ministre de l'Intérieur, a visité la borne frontière numéro 8, située dans la zone neutre entre le Rwanda et la RDC, où sont régulièrement rapportés des cas d'infiltration des combattants du M23 ainsi que des fraudes commerciales. En Ituri, près de 70% des personnes qui avaient fui les exactions des groupes armés dans le territoire d'Irumu vers l'axe Komanda-Luna sont déjà retournées dans leur village d'origine. C'est le résultat des accords de cessation des hostilités signés par les groupes armés locaux, ainsi que des dialogues communautaires appuyés par la MONUSCO. Les autorités locales et la commission de suivi de ces accords l'ont déclaré hier à la chef adjointe de la MONUSCO, en charge des opérations et de la protection, lors de sa visite dans la région, Isaac Raymond.
Les retours des populations des différentes communautés jadis à conflit est observé dans presque tous les villages situés sur l'axe Komanda-Luna dans la chefferie de Walesevonkutu, mais aussi dans d'autres localités de la chefferie de Basili à la périphérie de Komanda. Ces personnes avaient fui vers 2022 à la suite des tensions communautaires entre les CNND sur la gestion des terres. Les groupes armés à tendance communautaire qui s'affrontaient souvent dans la région ont également résolu de cesser les hostilités. Toutes les communautés confondues, Bira, les CNND, vivent désormais dans la cohésion. Tout cela est les résultats des efforts du gouvernement avec l'appui de la MONUSCO. La chef de la MONUSCO en charge des opérations a déclaré que la mission onusienne va continuer à soutenir cette initiative positive pour la consolidation de la paix dans cette partie de l'Ituri. Viviane Van de Peer.
La MONUSCO continuera à soutenir la mise en œuvre de cet accord, notamment le travail du comité de suivi en renforçant ses capacités, mais aussi à travers la mise en œuvre des projets de développement structurants et intégrateurs, permettant aux jeunes et aux femmes de se prendre en charge.
Le territoire d'Irumu doit être pris en exemple par les autres territoires à la matière, a conclu Viviane Van de Peer. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Aujourd'hui, 17 juillet, journée mondiale de la justice pénale internationale. Au Sud-Kivu, le groupe de travail sur la justice transitionnelle constate que les champs de la justice pénale n'est pas encore suffisamment exploité en RDC. La SBL, Initiative Congolaise pour la Justice et la Paix, ICJP, demande au gouvernement de la RDC de faire en sorte que, dans son programme, la justice pénale soit une priorité des priorités. Raphaël Wakenge, son coordonnateur, est dans cet extrait sélectionné par Rachel Kessembangu.
À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la justice pénale, il est à constater, en se référant au rapport, que le champ de la justice pénale est encore insuffisamment exploité dans notre pays. C'est pourquoi nous rappelons qu'il y a des recommandations qui ont été formulées par le rapport mapping et qui viennent d'être complétées par les recommandations du rapport de ICJP pour demander que la justice pénale soit une priorité dans le programme du gouvernement. Nous demandons également à la communauté internationale de revenir sur les recommandations, notamment s'agissant de l'établissement de la Cour pénale internationale pour la République démocratique du Congo en publiant le rapport et les annexes du rapport mapping. Nous pensons qu'en le faisant, ça sera une promotion, une consolidation de la sanction à l'égard des auteurs des crimes graves qui ont été constatés en République démocratique du Congo.
Signalons que les crimes rapportés au Sud-Kivu sont de diverses natures, meurtres, travaux forcés, tortures, violences sexuelles, pillages, destruction des propriétés et autres actes inhumains. La grande partie des crimes répertoriés ont été commis dans les territoires de Calais et de Mwenga. À Kinshasa, le meurtre, viol et vol en main armée sont les nouvelles formes de criminalité que vivent les habitants des quatre communes du district de la Funa. Il s'agit des communes de Bumbu, Ngiringiri, Selembao et Makala qui ont des frontières communes. Entre les mois de juin et juillet en cours, elles ont enregistré une dizaine de cas. Face à cette recrudescence de la criminalité, la bourgmestre de Bumbu, Marie Mukwano, a organisé hier dans sa commune un forum de réflexion sur la situation sécuritaire avec les bourgmestres des trois autres communes ainsi que et des services de sécurité. Cette rencontre avait pour but de formuler des nouvelles stratégies sécuritaires afin d'éradiquer ce phénomène. Les détails avec Miradine Fouengi.
Présent à cette rencontre, l'inspecteur territorial Moïse Boigna explique la situation sécuritaire de ces quatre communes.
Il y a le phénomène Kouloun et aussi il y a un phénomène qui sévit ces derniers temps, des criminels à main armée. La situation sécuritaire n'est pas du tout satisfaisante.
Pour faire face à cette montée de la criminalité, les bourgmestres proposent des stratégies d'abord à court terme. Kabongo Longodia, bourgmestre adjoint de Makala, explique.
La meilleure des stratégies, c'est garantir d'abord la présence policière dans les points les plus criminogènes. Et la deuxième, c'est la sensibilisation dans le cadre de la synergie d'action, de manière à ce que la population puisse s'inscrire et participer à ce que nous avons défini comme stratégie. Donc, le résultat, c'est réduire significativement les taux de criminalité pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens.
Pepito Kilala, député national, élu de la Founa, qui a aussi pris part à cette rencontre, appelle la population à s'impliquer dans cette lutte.
Nous avons convenu d'impliquer la population sous le veille du sens du patriotisme, sur la dénonciation. Je reste disposé à vous écouter afin de faire ma mission de porter les problèmes de mes communes plus haut.
Les bourgmestres se retrouveront la semaine prochaine pour évaluer l'impact de ces premières mesures.
On parle recrudescence du banditisme aussi à Kalemie, province du Tanganyika. Le maire de la ville annonce que la police a pris certaines mesures pour lutter contre ce phénomène. Dans une déclaration hier à Radio Okapi, David Mukeba souligne cependant que les moyens de la police sont limités. Il appelle par ailleurs la population à collaborer avec les services de sécurité dans la lutte contre le banditisme urbain. David Mukeba est au micro de Paulin Munanga.
C'est presque tous les jours que nous déplorons le cas de vol. Nous sommes en train de fournir des efforts. Alors, la police nationale de la ville de Kalemie, ensemble avec la mairie, nous avons amorcé de stratégies pour mettre fin à cette situation. C'est-à-dire que nous avons instauré un système de patrouille mixte, phare d'essai police. C'est presque chaque jour qu'on le fait. Il y a même le général de la police qui a donné un numéro vert où tout le monde qui peut se trouver en difficulté peut facilement appeler pour demander les secours. Il n'y a pas assez de véhicules, de jeeps pour la police. Et les quelques jeeps qu'ils ont maintenant sont déjà amortis totalement. La vétusté de ces véhicules ne permet pas de couvrir la ville ou de secourir quelqu'un dans un temps record quand il est dans les besoins. Je demande à la population de collaborer avec la mairie et la police. Il n'y a que la population qui peut nous communiquer qu'on a constaté un cas suspect, un homme sur une avenue qui n'a pas l'habitude d'habiter là-bas. Faites-nous signe le plus vite possible.
Nous en parlions dans le sommaire. Dans la province de Lomami, le passage des véhicules de gros tonnage sur le pont Luilou, dans le territoire du même nom, est désormais conditionné par le transbordement des marchandises. Autrement dit, les marchandises sont déchargées du véhicule, puis remises dedans à l'autre rive une fois le pont traversé. C'est ce qui ressort en tout cas de la réunion tenue ce mercredi à Luputa par l'administrateur du territoire de Luilou après les instructions données le week-end par le gouverneur de province lors de son passage dans la région. Explication Esther Ndalafina.
Le passage de gros camions sur le pont Luilou doit être autorisé par l'administrateur de territoire. Cela suite à l'état de délabrement très avancé de ce pont. Le gouverneur de province a attiré le week-end dernier l'attention de l'administrateur de territoire sur le risque d'effondrement de ce pont. Au cours de la réunion tenue ce mercredi à Luputa, André Kazadi, administrateur de territoire, annonce les deux dispositions mises en place pour faciliter le passage des camions sur le pont Luilou.
Les équipes qui veulent faire le stade voisin, nous allons leur donner un document où ils vont passer au pont pour procéder au risque de chargement et chargement de l'hôpital. Alors, ceux qui ne voudront pas doivent prendre la décision de l'intensité parce que là, il n'y a pas de problème.
Signalons que le passage des gros camions sur le pont Luilou a été interdit il y a 3 semaines par l'administrateur du territoire. Sa décision a été balayée d'un revers de la main par le ministre provincial honoraire des ITPR pour n'avoir pas informé sa hiérarchie. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Une fosse commune contenant 24 corps non identifiés a été découverte dans la ville côtière de Sirte, autrefois contrôlée par le groupe État islamique. Aucun détail n'a été fourni quant à la date potentielle de création de la fosse commune en Libye. Cependant, la ville de Sirte a été un bastion de l'État islamique pendant plusieurs années jusqu'à ce que les militants soient expulsés en décembre 2016 par les forces soutenues par les États-Unis. En mars, l'Agence des Nations Unies pour les migrations a aussi tiré la sonnette d'alarme après la découverte d'une fosse commune dans l'ouest de la Libye contenant les corps d'au moins 65 migrants. Notez que la Libye est un itinéraire majeur, bien que mortel, pour les migrants qui tentent d'atteindre l'Europe en traversant la mer Méditerranée depuis différentes parties de l'Afrique.
L'invité.
Notre invité s'appelle Eric Eri Mirindi. Il est conseiller municipal de la commune de Kalemi. Il revient sur les mauvaises conditions dans lesquelles fonctionne le conseil municipal de la ville de Kalemi au Tanganyika, faute de moyens matériels et financiers. Eric Eri Mirindi est avec Paula Munanga.
Monsieur Eric Eri Mirindi, bonjour.
Bonjour, messieurs.
Vous êtes élu depuis plus de 6 mois maintenant. Comment fonctionne votre conseil municipal?
Actuellement, nous fonctionnons dans des difficultés qu'on ne sait pas ici décrire. Depuis qu'on a été installé, je vais dire, en date du 23 janvier de cette année, il y a eu la proclamation des résultats des conseils municipaux. Et on a été élu à l'issue de cette élection-là. Et à dater de ces jours, on n'a jamais eu ni frais de fonctionnement, ni frais d'installation, ni frais liés aux commissions instituées, encore moins le salaire qu'on appelle communément émolument. Et d'autres avantages liés à notre statut. Donc, on travaille dans des difficultés indescriptibles.
Comment est-ce que vous vous débrouillez finalement pour fonctionner?
Tout au début, tout comme actuellement, rien n'était facile. Certains d'entre nous quittent de leur lieu d'habitation jusqu'au lieu de travail à pied. Ils rentrent à pied. On a retrouvé un système qui était déjà institué dans la commune. La commune ne vivait que des taxations. Il y a ces petits liens 500 fois qui proviennent de marchés. Chacune des communes a un certain nombre de marchés et c'est sur base de ces petits liens-là qu'ils tirent en passant par les administrateurs de marché que notre commune vit actuellement. Un certain montant d'argent que la commune réunit sur base de ces 500 francs qu'ils ont de chaque marché à hauteur de 300 000 francs par semaine. Nous, au total, nous sommes 7 conseillers municipaux. Il y a les collèges exécutifs communaux, donc le staff de bourgmestre. Quand vous faites les calculs de tout, vous voyez ce que ça vous donne. Donc, à la fin de la semaine, vous avez une affaire de moins de 10 dollars, 20 000 francs, moins de 20 000 francs.
Malgré les difficultés auxquelles vous êtes en train de faire face, vous vous réunissez en session. Il y a eu des sessions, je crois, extraordinaires et ordinaires.
Oui, oui, nous nous réunissons parce que la loi portant organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées, à son article 16, fixe pour le cas de la session extraordinaire un certain nombre de matières sur lesquelles revenir et asseoir toute une session qui, à la limite, ne peut prendre que 30 jours. Bien évidemment qu'il y a eu d'autres sessions, mais pour le cas de la session extraordinaire, il n'y a que ces 4 éléments sur lesquels revenir.
Il y a eu aussi des commissions qui sont mises sur pied.
Oui, il y a eu des commissions qui ont été instituées d'après ce que dit la loi. On ne peut donc pas instituer les commissions aussi longtemps qu'on n'a pas encore épuisé les 4 éléments-là qui sont repris par l'article 16 de la loi portant organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées. Après avoir épuisé tous ces 4 éléments-là, nous sommes revenus maintenant pour instituer les commissions. Et ces commissions-là, c'est pour faire la descente, voir ce qui se passe du point de vue économique, ce qui se passe du point de vue gestion des entités territoriales décentralisées, ce qui se passe du point de vue infrastructure. C'est ainsi qu'il y a eu une commission, par exemple, dite commission d'études et faisabilité de gestion des déchets ménagers. Il y a eu une autre commission instituée en rapport avec les infrastructures, voir par exemple si dans la commune, parce que après que nous on soit arrivés, on a remarqué qu'il y a certaines grandes artères, certaines routes principales qui étaient devenues de plus en plus envahies par les privés. Ils construisent de façon anarchique, il n'y avait plus de passage, une façon d'obstruer les passages.
Quel est le niveau de collaboration entre les conseils municipaux de la commune de Kalemi et les bourgmestres?
Le plus grand problème, c'est celui-là, et je profite de ce micro pour lancer un appel, que ce soit au président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République, un appel aussi pathétique, comme qui dirait ainsi à son excellence monsieur le ministre de l'Intérieur Jacques Meshabani, pareil pour la première ministre, que vraiment ce qui nous bloque, ce qui fait que aujourd'hui le développement ne sera pas au rendez-vous dans les entités territoriales décentralisées, c'est parce que il n'y a pas l'élection de bourgmestre. Lorsque sera tenue l'élection de bourgmestre, le bourgmestre aura été redevable envers nous les conseillers communaux qui vont les lire, mais pour l'instant, ils disent qu'ils ne répondent seulement qu'au chef de l'État parce qu'ils ont été nommés par ordonnance présidentielle.
Conseiller Eric Erimirindi, merci.
Merci aussi.
Et c'est la fin de ce journal, la grande édition du soir en langue française sur Radio Okapi. Merci de l'avoir suivi.